Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Appelait le roi du Zaïre, Mobutu Sese Seko, l'homme à la toque léopard, le tout-puissant maréchal, président de l'ex-Congo belge, disparu il y a 21 ans, jour pour jour. Nous parlons du feu président Mobutu dans ce magazine Un jour, une histoire. Bienvenue à vous. Nous allons recevoir l'un de ses collaborateurs en la personne du professeur Kambai Boacha qui va nous parler de lui, de son parcours et surtout de sa vision. C'est le menu de votre magazine qui s'ouvre aujourd'hui, une fois de plus, merci à vous tous qui nous suivez sur la toile radiokepi.net. La prise de son est de Patrick Kiasongwa. Je suis Pamela Mounazomwalou et Jean-Marc Matuaki supervise ce numéro. Agréable condition d'écoute de la suite de votre magazine. Il est décédé d'un cancer lors de son exil au Maroc, mettant fin à ses années de grandeur et de décadence. Mais aujourd'hui, les Congolais ne l'ont pas oublié. 21 ans déjà, les Congolais ne l'ont pas oublié. Second président du pays, après Joseph Kasavubu. Pour les uns, c'était un grand président, un grand homme d'État. Mobutu, tout d'abord, c'est lui qui a pacifié le pays. Il a unifié, il a fait une armée nationale. Il a fait la fierté, celui-là, qui a intégré les pygmées dans l'armée et dans la société. Ce fut un grand homme politique au cœur de l'Afrique qui faisait effectivement la dignité de l'Afrique, l'affirment certains. Pour d'autres encore, un homme au grand cœur. Au Maroc, où le président Mobutu est enterré, de nombreux membres de la communauté congolaise se sont rendus au cimetière chrétien de Rabat pour se recueillir sur sa sépulture. D'autres Congolais ne comprennent pas que la dépouille de l'ancien président n'ait pas été rapatriée en RDC. Mais il y en a encore qui ne lui pardonneront jamais d'avoir instauré un régime totalitariste. Qu'importe, ses proches, ses anciens collaborateurs commémorent chaque année à la date du 7 septembre le triste anniversaire de la disparition du père de l'authenticité zaïroise. Professeur Kambai Boacha, vous êtes un ancien collaborateur du président Mobutu. Aujourd'hui, nous aimerions nous intéresser à cette personne. Qui est le feu président Mobutu Sese Seko?
Mais vous faites un effort formidable. Vous avez bien fait de parler de maréchal Mobutu. Parce que nous avons l'habitude, de nous, historiens, de penser que tout ce qui a ponctué la vie d'une communauté, d'un État, d'un peuple, comme par exemple le peuple congolais, jadis le peuple zaïrois, est considéré par nous comme le lieu de mémoire. Mobutu lui-même est lieu de mémoire. Donc, il est important qu'on parle de Mobutu. Vous voyez, il a régné pendant 32 ans, c'est-à-dire qu'il a pas mal dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Il a influencé pas mal, et surtout pas mal, la vie, l'être au monde de la population congolaise. Donc il est mieux qu'on parle de lui comme lieu de mémoire. Et la mémoire exige qu'on parle de ceux qui l'ont ponctionné, de ceux qui l'ont, n'est-ce pas, tissé, de ceux qui l'ont constitué et de ceux qui ont fait son histoire, l'histoire de la mémoire, vous voyez. Voilà comment je peux vous répondre. C'est important, ça. Alors, si je peux aller plus loin pour rencontrer votre préoccupation, je ne peux que vous parler de ce que je connais.
Tout à fait.
Tout en m'élaguant, élargissant ma pensée sur l'ensemble d'êtres congolais. Le président Mobutu, moi particulièrement, je l'ai connu très jeune.
D'accord.
Hein, je l'ai connu très jeune. C'était en 1958. C'est beau ça, en 58.
Avant même qu'il ne soit président.
Ah, bien sûr, il était journaliste. Mm-hmm. Il était journaliste aux Actualités africaines, avec un autre patriarche déjà mort, Ngalula Joseph.
Okay.
Ils habitaient sur l'avenue Kimbondo. Et moi, gosse, en 58, j'avais quoi ? J'avais 16 ans.
Mm-hmm.
Oh, c'était un monsieur que j'admirais beaucoup. Et il vous parlait, il était charmant. Et nous, à ce moment-là, nous étions au secondaire. On voyait avec ses lunettes un autodidacte formidable. Nous l'avons déjà admiré. Il habitait sur Kimbondo, chez sa tante. La maison existe encore aujourd'hui. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver son effigie,
oui, oui.
Sa photo. Mm-hmm. Quand vous arrivez vers le rond-point à Kimbondo. Et puis au coin du rond-point, en face du foyer social, il y avait une maison des prêtres scotistes. Et moi, j'étais dans cette maison. Donc, je peux donc être à l'aise quand je parle de lui.
De lui.
Vous voyez. Il est entré à l'école, il est devenu militaire. Comme à ce moment-là, tous les garçons, un peu plus turbulents dans leur façon d'être, qui se présentaient très fort, allaient dans l'armée, qui était force publique. Lorsque le Congo devient indépendant, et si on n'a pas revu la force publique pour devenir l'armée de l'État, la force publique est simplement changée de la force publique en armée nationale. Mais ça n'a pas changé de contexture. Ça n'a pas changé de structure. Alors, la force publique devenant armée nationale sans changement, alors Mobutu devenant dictateur, donc l'armée nationale, qui était restée force publique, est restée au service du président Mobutu, qui, quelque temps, va devenir dictateur. Pourquoi ? Il avait déjà essayé sa force avant, comme personne. C'était un homme de grande personnalité, d'un charisme caractériel extraordinaire. Déjà, en septembre 1960, il avait déjà fait un bon petit coup.
C'est-à-dire, c'est quoi ce petit coup ?
Un bon petit coup d'État. Rappelez-vous, à l'époque, il avait institué le collège des commissaires généraux quand les politiciens commençaient à faire un peu de bruit et ne s'attendaient pas. Il y avait plusieurs partis politiques. J'avais recensé, à ce moment-là, il y avait plus ou moins une quarantaine de partis politiques, sans compter les associations des mutuelles, de Nguachi, de Bena, de Mutotiokweto, l'enfant d'eux et d'eux, de Wamamou, de Watatu, tout ce monde-là. Alors il a tapé sur la table pour dire, écoutez, désormais c'est terminé. Il a mis et les politiciens et leurs partis politiques au rancard. Il a constitué un gouvernement de commissaires généraux, dont Mobutu était commissaire général, mais sorte de premier ministre. Mmh. Vous comprenez, c'était tous des jeunes gens qui étaient au graduat, ce qu'on appelait jadis la candidature.
Mmh.
Vous avez les Tshisekedi, Lumumba à ce moment-là, le Mukamba Kanyata Zimba et tout ce monde-là. Bon, alors après la mort de Lumumba, il a essayé tout ça. Et puis après, dans ces entrefaits, le Congo a très mal tourné. Pourquoi très mal tourné ? Parce que justement, on était en train de mettre sur pied les nouvelles forces démocratiques à l'image de la mère patrie, vous voyez.
De la Belgique.
À l'image de la Belgique, de la France, etc. Nous avions des intellectuels de grande qualité. Ils n'étaient pas tous universitaires, mais c'était des grandes qualités. Le premier universitaire, comme on le dit souvent, on dit que c'était Kanza, mais il y avait tous des Congolais mulâtres, métis, à côté, qui, eux, avaient fait des Sousa, par exemple, des frères chrétiennes, qui, eux, avaient fait des études universitaires, mais comme noir, c'était Kanza. Les gens qui ont travaillé, qui ont arraché, en quelque sorte, l'indépendance à la table ronde, vous voyez. Donc, à un moment donné, et puis Mobutu, en 65, a fait son grand coup. À ce moment-là, on ne peut pas dire que Mobutu n'était pas grand politicien. Les grands politiciens, c'était qui à l'époque ? Il était secrétaire de Lumumba. Et comme il n'était pas n'importe qui, étant secrétaire de Lumumba, et comme je vous ai dit, étant secrétaire de Lumumba, il a accompagné Lumumba. Et comme il était autodidacte, il l'a lu, il a entendu. À ce moment-là, écouter les nouvelles, la défaite de ceci, c'est terrible. Mobutu était une, d'une grande culture. Et petit à petit, il s'est intéressé à la politique. Et puis, on l'a accueilli au moment où il y avait du désordre. On l'a accueilli par des services internationaux. Par exemple, la CIA l'a utilisé pour éliminer celui qu'on considérait comme communiste. Attention, à l'époque, quand on se proclame aimer son pays, on est automatiquement communiste. Nous nous trouvons dans un contexte de la guerre froide. La Belgique, le Congo, étant jadis colonie de la Belgique, devrait, après l'indépendance, rester dans un contexte de l'Ouest.
C'est justement la question que j'allais vous poser, oui. Professeur. Sur base de ce que vous connaissez sur Mobutu, vous pensez qu'à l'époque, alors qu'il était journaliste, il avait déjà l'intention de prendre le pouvoir et devenir président de la République, si pas premier ministre à la place de Lumumba?
Il n'est pas défendu. Hein. On devient le devenu. L'appétit vient en mangeant. Mobutu, même si au départ, il n'avait pas ces intentions-là, mais naissant dans la politique, travaillant dans la politique, ben, il s'est dit, écoutez, si ce monsieur-là, qui n'est pas aussi intelligent que moi, qui ne parle pas plus que moi, qui n'a pas la parole facile, peut commander, pourquoi moi je ne commanderai pas? L'appétit venant en mangeant, et il a mangé. Il a mangé, et comme il était chef d'état-major général, il avait l'armée sous ses bras, sous son commandement, et comme la plupart des militaires était de la même région, je ne sais pas ainsi m'exprimer, vous voyez, comme il était un homme suffisant au point de vue imagination, il a actionné son imagination et son imaginaire. Il a construit le pays et le pouvoir selon lui. Et c'est ça ses mérites. Selon lui, il voulait quelque part avoir un pays appartenant aux Congolais qui deviendront Zaïrois, en dehors. Mais et comme on ne pouvait pas fonctionner en dehors de le système capitaliste, il est resté mais lié à côté des agents du grand capital représentés par la Belgique. Et il a pris Mobutu justement parce que le grand capital a regardé Mobutu, on cherchait de gauche à droite, qu'est-ce qu'il peut faire l'affaire? C'est comme ça que les capitalistes cooptent les gens et les placent. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire notre affaire? Lumumba mort, Lumumba nationaliste, Lumumba communiste, Lumumba veut nous arracher la Gécamine, Lumumba veut faire ceci, Lumumba veut faire ceci, et il est trop nationaliste. Maintenant, dis-nous, qui peut faire l'affaire? Ah, on dit, celui qui peut faire l'affaire, pour le moment, pour nos propres intérêts, c'est celui-là. On a pris Mobutu, on l'a placé en tête pour les intérêts des étrangers. Mais lui-même aussi a fait son affaire, arrivé au pouvoir. Il a construit son pays sur son modèle. Attention, quand je parle de modèle, il avait toujours le mentor. Il avait ses couturiers dans le coin, qui était monsieur le grand Sili, le grand éléphant, qui a dit non aux Français en Guinée. Nous sommes vous voyez, il a dit non, l'homme du non. Mobutu a dit, mais pourquoi 59, pas moi? Ouais. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas dire non? Pourquoi je ne peux pas généraliser? Et puis pourquoi je ne peux pas radicaliser? Alors, comme chaque fois qu'il entreprenait une action de grande envergure sur le plan économique et qu'il était coincé quelque part, il revenait toujours sur sa décision. Vous comprenez la zaréanisation, la radicalisation, la rétrocession, toute cette politique en dents de scie a constitué un peu l'être Mobutu. La population attendait un messie. Et sur toute l'Afrique, tous les Africains attendaient le Messie. Mais mon ami, attends, on sort de la colonisation, on sort de la misère, parce que le pouvoir colonial était un pouvoir dictatorial, un pouvoir d'apartheid. On sort de la misère. Et l'indépendance nous a amené la misère. Alors la population, la masse attendait un Messie. C'est ainsi que Mobutu se présentant comme Messie, comme le Dieu vivant, on l'a chanté ainsi, comme le Dieu vivant, on l'a sacralisé, on l'a adulé. Le peuple a besoin de quelqu'un qui veut venir lui dire, avec moi vous aurez le bonheur. Quand quelqu'un se trouve dans la difficulté d'ordre existentiel, il attend un Messie. Et ce Messie, l'homme a comme qualité et défaut d'avoir son Messie directement. Il veut avoir un Dieu avec barbe, etc. Je ne veux pas attendre longtemps. Cette affaire de Messie, je veux le voir. Et Mobutu, Sékou Touré et tous les autres se sont présentés comme des Messies et ils ont eu cette complicité entre eux, le cas de Mobutu. Mobutu réellement a eu cette complicité entre lui et le peuple. Le peuple étant quelque part, n'est-ce pas, massifié sur le plan idéologique. Vous voyez, la massification d'un peuple idéologise le peuple et sloganise le peuple. Alors le peuple vit de slogans. Mmh. Et vous avez vu, à l'époque de Mobutu, nous avons vécu de slogans. Il est allé chez Hitler, le modèle de la dictature, n'est-ce pas, Ein Volk, Ein Führer, Tatabo, Moko, Ekolobo, Moko. Ça, c'est du nazisme, ça. Mmh. Et le peuple adore ça. Que le peuple s'est trouvé divisé en tribus, en ethnie créée déjà par la colonisation. C'est intéressant à comprendre. J'ai mangé, j'ai trouvé c'est intéressant. Mais pourquoi j'abandonnerais? Mobutu, c'était pas n'importe qui. Il est entré au pouvoir. Il a vu que le pouvoir était intéressant. Il a vu qu'il était devenu cinquième riche au monde. Il a vu qu'il était appuyé par les Nixon, par les Eisenhower. Toute cette guerre froide-là, on lui a donné de l'argent. Ben, il est resté. C'était un prétexte. Tous les chefs d'État à l'époque, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, étaient tous à la solde du grand capital. Mm-hmm. Ainsi, ils prennent le pouvoir par un coup d'État, ils vous disent, je vais mettre de l'ordre, je vais reconstituer, je vais remettre la constitution, je vais respecter. Quand le moment arrive, ils changent facilement les articles de la constitution, et ils changent. On change une fois, on change deux fois, et puis, milélé. Alors, ils ont changé. Et ensuite, pourquoi ils quittent pas? Mais, ayant pris le pouvoir dans la violence, ils sont sûrs qu'ils vont quitter par la violence. Le Zaïrois qui n'était plus congolais était fier d'être Zaïrois. Était fier d'être. Nous n'étions pas rwandais, nous n'étions pas tanzaniens, nous n'avons pas envie de devenir belges, nous étions fiers d'être zaïrois. Vous avez vu, dans tous les domaines, n'est-ce pas, Mobutu a compris que quand le Zaïre va bien, l'Afrique va très bien. L'équipe nationale était cette du Zaïre. Quand vous allez à Bruxelles, on vous regarde, on dit ça c'est un zaïrois, ça c'est un congolais. Et pour entrer au gouvernement, monsieur, on a suivi, madame, on a suivi votre dossier comme il faut. On dit, voici, ça c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Ah oui, c'était pas n'importe quoi. Vous utilisez la voiture ministérielle devant le bistrot, devant le bar. Vous avez, votre dame a pris la voiture et il est allé chercher les enfants. Demain, vous êtes parti. Non. Mobutu, c'était un monsieur. C'est pourquoi dans cette jeune Afrique, j'ai dit, nous étions dignes. Cela veut dire quelque part qu'aujourd'hui, quelque part, je dis bien, nous sommes plus dignes. Mais nous restons dignes parce que moi, j'ai pas envie, vous n'avez pas envie d'être de Burundais. Vous n'avez pas envie d'être de Malawite. Non, je suis Congolais. C'est pour cela que nous revendiquons aujourd'hui la dignité et caractéristique de l'identité. Au moins, quand vous allez à Londres, vous dites, je suis Zaïrois. Au début, regardez comment il est. Il est à temps, il est fier, il a de l'ordre. Il a de l'ordre, c'est pas n'importe quoi. Lorsqu'il y avait la justice, mais vous voyez, militaire de Mobutu, c'était pas de n'importe quoi. Vous allez dans un bureau ministériel, c'était pas de n'importe quoi. Vous avez vu le bateau Kamanyola? Vous avez vu les hôpitaux ici? Vous avez vu l'armée? Vous avez vu les universités? Mais Mobutu nous a créé l'Université nationale du Zaïre pour ainsi mettre tous les enfants congolais, zaïrois, ensemble. On pouvait être du Bas-Congo et on serait au Katanga, on est universitaire, on est à l'aise. Et combien de Bas-Congo ne parlent-ils pas Swahili? Combien de gens de Lubumbashi ne sont pas fiers d'avoir étudié à l'UPN en Bazangungu? Non, monsieur, la dignité, c'est ça. La dignité, c'est l'ordre. Le Congolais, c'était celui-là. Nous sommes fiers de parler Lingala. Vous comprenez? Oui.
Un
professeur, j'aimerais évoquer un autre aspect. C'est parmi les décisions qu'avait prises le feu président au Mobutu, entre autres la zaïrianisation. Parce que vous avez dit que quand l'Afrique va bien, quand le Congo va bien plutôt, l'Afrique va bien aussi. La zaïrianisation a été prise, c'est en début des années 70. Est-ce que vous pensez que c'était le bon moment de prendre ces décisions? Est-ce que le Congolais était suffisamment préparé pour pouvoir lui aussi diriger, gérer comme il se doit?
Vous comprenez, quand un chef d'État, un homme politique est un visionnaire, un homme politique, n'est-ce pas, anticipe l'anticipation. Un homme politique met son État, son peuple, dans l'évangile de la compétitivité. Pourquoi Mobutu ne créerait-il pas la classe moyenne? Et la zaïanisation avait justement comme but de créer la classe moyenne. Parce que dans tous les pays qui se respectent, c'est la classe moyenne qui crée l'emploi, qui crée le travail. Alors, remettant les biens appartenant aux étrangers, appartenant aux Libanais, aux Juifs, aux Pakistanais, aux Indiens, aux Congolais, maintenant, dire qu'ils n'étaient pas préparés, ce n'était plus tellement l'affaire Mobutu. Mobutu, pour lui, il dit, je vous les donne, travaillez. Mais malheureusement, les gens tout autour ont donné ces gens des choses-là aux frères, aux Ngwashi, aux Mwanetu, aux Amamu, ma petite voisine du coin, à ma petite chérie du coin, quelqu'un qui avait l'habitude d'aller piéger les rats quelque part chez lui, là, il devient PDG, et ceci, naturellement, il s'est tombé dans la désuétude, chasser le naturel, et il revient au galop. Vous voyez, mais c'était bon, mais il avait fait de mauvais choix. Et c'est ça le dictateur. Le dictateur travaille avec sa tête, mais non cette tête-là cérébrale. Il travaille avec ses émotions. Ses émotions, n'est-ce pas? C'est ça l'erreur. Et la zaïanisation est tombée. Et quand il était acculé, il a ramené la rétrocession, c'était tard. La radicalisation, c'était tard. Mais Mobutu nous a laissé l'unité nationale. Mobutu a donné cette idée en tête. Le Mushi, le Mundande, le Furero, le Furero, Munyanga, le Pygmé, le Hunde, qui se trouve à l'est du pays, qui aujourd'hui, voici la saison de pluie, qui se trouve là, c'est votre frère, c'est un Congolais. Et Mobutu a laissé ça. Vous voyez, quand j'ai dit que nous étions dignes d'un jeune Afrique, Mobutu a laissé ça, c'est un héritage. Malheureusement, nous avons l'impression que cet héritage n'est pas sauvegardé. Nous sommes à Kinshasa, à l'aise, nous dansons au coin de la rue le Ndombolo, pendant que vos frères, vos sœurs, mes parents meurent comme des chenilles, n'est-ce pas, au Kivu. Mm-hmm. Pendant qu'à ce moment-là, l'hôpital ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai dit que nous étions dignes. Comprenez que pourra. Cela ne veut pas dire que tout est mauvais aujourd'hui. Mm-hmm. Mais nous devons reprendre cette histoire. J'ai l'habitude de dire ceci. Un peuple, une communauté, une personne, une famille, sans repère, se perd toujours. Il y a à boire à manger, mais je dis que Mobutu était un grand nationaliste. Mais il s'est trouvé dans un contexte tel que il ne veut pas les mains libres avec le grand capital. Mais il ne faut pas pardonner cela, parce qu'il pouvait se battre jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas effacer comme ça, de revers de la main, tout cet héritage de Mobutu. Nous étions dignes, ça c'est clair. Il a laissé l'unité du pays, ça c'est clair. Il a laissé cette façon de devenir un. Dans sa dictature, nous avons toujours condamné dans nos écrits la dictature. La dictature où qu'elle vienne, et en famille, et dans la communauté, et à l'église, est une mauvaise chose. La démocratie égale le respect de la liberté de l'individu. Mobutu était mauvais à ce moment-là. Même si aujourd'hui nous sommes démocrates, nous devons expérimenter le respect de la dignité. Et vous verrez, le jour où nous serons, on va respecter la dignité de la liberté, le pays va aller de l'avant. Et naturellement, un individu congolais, aujourd'hui mûr en matière, lorsqu'il observe qu'il y a le retour au mobutisme dictatorial, le peuple va dire non, parce que le peuple a grandi. Il faudrait garder cela. L'unité nationale. Mobutu, les Congolais ont nommé leurs généraux, les recteurs d'université, les PDG. Nous-mêmes, il n'y avait pas de recommandation. Je ne sais pas si à Brazzaville ou ailleurs, excusez-moi, si ailleurs on peut le faire, il faut avoir toujours des tentacules, Sorbonne, Montréal, Belgique, c'était l'ancien de Louvain, ancien de Liège. Non. Les Congolais, les Aïrois avaient atteint le niveau tel que nous nommions nos autorités à nous-mêmes. Notre université était à nous. Regardez le travail accompli par l'UNASA, le travail accompli par Monseigneur Tassi Chibango, si je peux ainsi le citer. Et c'est extraordinaire. Le travail accompli par tout le monde, et n'importe qui pouvait travailler. Et nous avons des sociétés extraordinaires. À un moment donné, un Zaïre est égal à un dollar. À deux dollars, hein. Ça venait de la dignité. Si on n'était pas nationaliste, on n'aurait pas atteint ce niveau-là.
Alors, pour terminer cet entretien, nous savons qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne le pouvoir du président Mobutu, puisqu'il a dirigé pendant près de 32 ans. Mais, professeur, nous allons vous demander de faire une comparaison avec le Zaïre d'antan et le Congo aujourd'hui.
Il faut vous dire que la comparaison n'est pas toujours raison. Hein.
Mais c'en est une quand même.
Oh, oui, la comparaison n'est pas toujours raison. Et puis, une raison n'est pas toujours raisonnable. Une raison n'est pas toujours raisonnable. Il est facile de faire un retour ou un recours à ce qui s'est passé. Parce que nous avons des éléments, hein, nous avons des documents. Vous voyez ? Bien. Aujourd'hui, je ne veux pas comparer parce que nous avons besoin d'histoire. Vous voyez ? Nous avons besoin d'histoire et l'histoire a besoin de dépôts, a besoin de scories pour être jugée. Tout ce que nous pouvons dire est que nous étions dignes. Nous avions l'unité du pays et qu'aujourd'hui nous n'avons pas l'unité du pays. Tout ce que nous pouvons dire également est que il y avait une grosse autorité qui a maintenu l'État zaïrois en place et aujourd'hui les autorités sont en train de se démêler de gauche à droite au point de perdre le sommeil pour garder l'unité du pays. Et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à ces autorités et être avec eux dans la mesure où ils respectent la liberté des individus et la démocratie telle que définie plus haut. Voilà.
Alors, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Oui, que le peuple congolais se sente qu'il est digne, qu'il doit retrouver ses valeurs d'homme, qu'il doit retrouver les slogans ou bien les valeurs qui se trouvent dans son hymne national, unis par le sort, debout congolais. Nous avons promis au Congo que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Le temps est là de bâtir un pays où il fait bon vivre. Voilà, Kouajik.
Merci professeur. Je rappelle que vous êtes l'un des collaborateurs. Vous avez été l'un des collaborateurs du président Mobutu. Merci pour votre part d'histoire et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Je vous félicite pour cet effort que vous faites pour reprendre toutes ces valeurs. Et n'oubliez pas, un peuple sans repère se perd cruellement. Plus, un fleuve sans source tarit et devient un lac boueux.
Merci professeur pour ces pensées sages. J'espère que tous ceux qui nous suivent en ce moment vont retenir et vont méditer là-dessus. Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est par ici que prend fin votre magazine Un jour, une histoire. Merci à vous, professeur Kambayi Boitcha. Je rappelle que vous êtes l'un des collaborateurs du feu président Mobutu. Nous avons parlé de la vision de son parcours avec vous. Merci aussi à vous tous qui avez suivi ce numéro de votre magazine Un jour, une histoire. La prise de son était de Patrick Kiasongo, micro Pamela Mounazomwalou, Jean-Marc Matwaki a supervisé. On se fixe donc rendez-vous la semaine prochaine, ou encore, je dirais mieux, le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et en rediffusion le mercredi pour parler de l'histoire de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.